Radio Kapi.
Blaise Chinda Nkambala pour le journal.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local dénonce les détournements présumés de plus de 100 millions de dollars destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Ces détournements présumés et qualifiés de crimes financiers par l'organisation qui réclame réparation. Des accusations que rejettent les coordonnateurs du FRIVAO. Vive tension à Bounia ce jeudi. Des conducteurs de taxis moto ont envahi plusieurs artères principales de la ville pour protester contre la décision de la PCR qui oblige désormais chaque motard à porter un casque et un gilet. La police rappelle pourtant qu'il s'agit d'une mesure salutaire qui est destinée à lutter contre les accidents de circulation. Dans un rapport publié, les CREFDEL révèlent que plus de 100 millions de dollars américains destinés à financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani encaissés de janvier 2022 à décembre 2024 ont pris d'autres destinations. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Valérie Madianga, les coordonnateurs de cette structure. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL-ASBEL tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié mercredi à Kinshasa, cette organisation dénonce les détournements présumés de plus de 100 millions de dollars destinés à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Alerte donnée à l'issue d'une enquête citoyenne menée sur la gestion de cet argent par le Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, FRIVAO. Selon les CREFDEL, sur les 105 millions de dollars collectés entre janvier 2022 et décembre 2024 pour indemniser les victimes ou leurs ayants droit, seuls 2 millions ont été effectivement versés jusqu'au 8 octobre 2024. Ces détournements présumés et qualifiés de crimes financiers par l'organisation qui réclame réparation. Des accusations que rejettent les coordonnateurs du FRIVAO. Grâce à Mzati Masanzi nous en dit plus.
Selon CREFDEL, aucune loi de finances de l'année et de reddition des comptes ne retrace l'encaissement de ces montants dans les comptes de l'État et FRIVAO en tant qu'organisme public n'apparaît pas dans les documents budgétaires votés par le Parlement et promulgués par le président de la République. Ces fonds ont été mouvementés dans au moins 10 comptes bancaires ouverts à la RoBank, dont 7 ont directement pour mandataire le ministère de la Justice, alors que les décrets portant création des FRIVAO ne les désignent pas comme ordonnateurs des dépenses. Pire encore, l'argent des victimes a même servi à financer les activités d'un bureau d'échange dénommé Click Change SRL à hauteur de 4,2 millions de dollars, dénonce CREFDEL. Face à cette situation, CREFDEL demande l'ouverture d'une enquête contre tous les gestionnaires des comptes bancaires liés à ces fonds depuis le premier encaissement jusqu'à nos jours. En réaction, le coordonnateur du FRIVAO affirme que CREFDEL a une perception tronquée et erronée concernant la nature, la vocation de ces fonds de l'Ouganda et de la mission dévolue à FRIVAO. Il rappelle que son équipe, suspendue pendant une année, n'a été réhabilitée qu'en juillet 2025. Cependant, Monseigneur François Moirabou reconnaît qu'avant sa suspension, un montant de 101 millions de dollars était mis à la disposition du FRIVAO. Mais c'est au ministère de la Justice et à la coordination intérimaire d'y répondre, conclut-il.
Parlons de la remise et reprise ce jeudi au Palais du Peuple à Kinshasa entre le président honoraire de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le vice-premier président Isaac Jean-Claude Chilumbay. Cette cérémonie intervient après la démission de Vital Kamerhe déposée lundi. Conformément au règlement intérieur, la fonction est désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbay en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, Vital Kamerhe a encouragé son successeur à défendre avec fermeté les présidents de la République ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Il affirme qu'il restera disponible en cas de besoin car la République passe avant tout. Vive tension à Bounia ce jeudi. Des conducteurs de taxi-moto ont envahi plusieurs artères principales de la ville pour protester contre la décision de la police de circulation routière qui oblige désormais chaque motard à porter un casque et un gilet. Certains manifestants ont été interpellés et leurs motos saisies. Selon les autorités, cette mesure de sécurité publique vise à identifier les motards et à lutter contre la criminalité urbaine. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Depuis les premières heures de la matinée, des groupes de motards sillonnent la ville à coups de klaxons pour manifester leur désapprobation de la décision de la police leur imposant le port de casque et de gilet. La police rappelle pourtant qu'il s'agit d'une mesure salutaire qui est destinée à lutter contre les accidents de circulation. Le commissaire supérieur Ndololire Assimwe, commandant de la PCR à Bounia, précise.
Nous avons fait passer beaucoup de sensibilisation pour les casques juste et pour leur protection. Et à ce qu'on sait, les gilets avec beaucoup de criminalités que nous connaissons dans notre ville de Bounia. Il arrive des fois que ces criminels ne sont pas identifiés. Sur chaque gilet, il y a un numéro et c'est facile maintenant d'identifier ces motards-là.
Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Certains motards qui se sont déjà procurés ces équipements dénoncent des agressions de la part de leurs collègues qui refusent d'appliquer la mesure. Luanzo Kalimba, un motard rencontré dans la rue de Bounia, s'indigne.
Nous qui nous sommes permis déjà d'acheter avant, d'autres se sont contestés immédiatement. Donc une fois qu'ils te voient avec le casque ou avec le gilet, ça devient tout à fait difficile de les fréquenter.
D'autres enfin estiment que le prix de $20 américains pour obtenir gilet et casque est trop élevé. En attendant une solution durable, les rues de Bounia restent sous tension entre partisans et opposants à cette nouvelle mesure. Bounia, Jean-Claude Bocchi, le Radio Capital.
La RDC et le Rwanda ont convenu, lors de la deuxième réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire tenu les 17 et les 18 septembre à Washington, de la mise en place d'un ordre opérationnel au port pour faire progresser les concepts d'opération CONOPS adoptés dans le cadre de l'accord de paix signé entre les deux pays sous l'égide des États-Unis. Selon un communiqué du département d'État américain publié hier jeudi, l'ordre opérationnel qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025 prévoit notamment la neutralisation des FDLR et groupes associés, la levée des mesures défensives du Rwanda ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'État congolais. Selon le communiqué, les partis ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Pendant ces temps, une quarantaine de présumés combattants du M23 présentés à la presse à Kisangani dans la province de la Tchopo. Parmi ces combattants, il y a des rendus et des capturés sur les lignes de front du Nord Kivu et du Sud Kivu, selon les FARDC. C'est ce qu'a indiqué mercredi à la presse le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavudissa. D'autres précisions avec Jacques Moukonkole.
Au total, 45 éléments, dont deux mineurs d'âge, se sont échappés des mains des M23 et sont arrivés à Kisangani ces derniers jours. Parmi eux, 30 se sont rendus au FARDC, tandis que 15 autres ont été capturés au front. À Kisangani, ils sont totalement pris en charge par les autorités militaires. Selon le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavudissa, ces vagues de défection sont la résultante du mauvais traitement dont ces militaires sont l'objet de la part des insurgés dans les centres de formation de Rumangabo et Nyangezi. Témoignage de l'un d'eux.
J'étais comme un animal, il n'y avait pas des habits, il n'y avait pas de salaire, à manger c'est difficile. C'est pour cette raison que j'ai vu que je ne peux pas rester pour souffrir. Nous ne dormions pas même dans des maisons, nous restons simplement dans la forêt comme ça, dans des trous qu'on appelle des trachées. C'est pour cette raison que nous avons pris la fuite.
Rappelons aussi que le porte-parole de l'état-major général de FARDC exhorte les militaires se trouvant encore sous l'emprise du M23 de tout faire pour se séparer d'eux et si possible même de se retourner contre eux. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Revenons encore une fois à Ituri. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection et des opérations en visite dans la province s'est rendue ce jeudi à Tchabi, entité située à environ 156 km au sud de Bounia, dans les territoires d'Irumu. Accompagnée d'une forte délégation dont le gouverneur militaire de province et le chef de bureau de la MONUSCO Ituri, Viviane Van de Peer, a rencontré les représentants de la communauté locale. Elle a également procéder à la remise officielle aux autorités du nouveau commissariat de police locale dont la construction a été financée par la MONUSCO dans le cadre des projets à impact rapide. Depuis Tchabi, retrouvons notre envoyé spécial Martial Kiza Biamongo.
Ce nouveau bâtiment de la police nationale congolaise vient remplacer l'ancien construit à l'époque coloniale et qui était dans un état de vestiguité avancé. Il est équipé de matériels informatiques et de mobilier. La population composée à majorité des retournés salue cet appui de la MONUSCO. Elle affirme que et c'est le signe de l'espoir pour les retours de la paix à Tchabi, entité plusieurs fois victime des exactions des rebelles des ADF. Elle souhaite cependant le déploiement rapide des éléments de la police nationale congolaise PNC dans les milieux pour consolider la relative accalmie observée sur place dans plusieurs semaines. Nous avons l'espoir d'une bonne sécurité dans notre entité victime plusieurs fois des exactions des rebelles des ADF, ont déclaré les habitants. Comme en réponse à leur doléance, le gouverneur provincial, le général Johnny Luboyankachama, a promis le déploiement rapide de la police dans cette entité pour la protection des civils et les retours effectifs de l'autorité de l'État à Tchabi. De son côté, Viviane Van de Perre a réitéré le soutien de la MONUSCO au FARDC et à la police nationale congolaise pour pacifier cette entité sous menace des rebelles des ADF. Depuis Tchabi, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans la ville de Beni, les responsables politico-administratifs, les cadres des bases, les acteurs de la société civile ainsi que les forces de sécurité participent à une formation de 3 jours à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent organisée par le Paul Institute. En partenariat avec le gouvernement provincial, cette session vise à doter les participants de notions essentielles pour renforcer leur efficacité dans la lutte contre ces phénomènes au sein des communautés. Marc Marofimbo pour les précisions.
Les participants échangent notamment sur l'extrémisme violent et ses manifestations au Nord Kivu et en Ituri, la résolution pacifique des conflits, la médiation et les mécanismes consultatifs pour y parvenir. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la persistance des violences et conflits armés dans les deux provinces. Selon les organisateurs, il est urgent de renforcer les capacités des autorités locales et leaders communautaires afin de trouver des solutions durables aux crises qui affectent la région. Innocent Posé est facilitateur de cette activité.
Il y a un constat fait depuis un temps. Et pour y remédier, nous avons pensé que travailler ou échanger avec les autorités sur ces questions qui nous touchent, qui affectent principalement nos communautés, et voir avec les autorités comment on peut en saisir d'abord le sens, mais aussi ensemble voir pourquoi il y a ces problèmes qui persistent et quelles peuvent être les voies possibles pour sa résolution.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières, un programme transfrontalier mis en œuvre en RDC et en Ouganda par Paul Institute. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale pour parler du désarroi des habitants de certaines parties du quartier Maziba. C'est le cas de ceux de la 2e à la 6e rue. Ils se disent abandonnés par le gouvernement après avoir subi les inondations de pluie du mois de juin dernier. Pour preuve, pas de travaux d'aménagement engagés par le gouvernement depuis cette catastrophe. Les sinistrés de ces quartiers situés dans la commune de Matete vivent entre la colère et la peur. Ils redoutent ainsi de vivre à nouveau ces épisodes malheureux d'inondation au moment où la ville s'attend à de nouvelles pluies. Retour dans l'un des quartiers victimes des inondations de pluie et comment se passe la vie sur place. Reportage signé Lukin Zao qui est descendu dans ce quartier.
3 mois après la tragédie de juin dernier, la population du quartier Maziba essaye de prévenir les inondations tant soit peu avec des initiatives moins rassurantes. Des charrettes ou pousse-pousse viennent décharger des immondices en vue d'hausser le niveau de la terre rongée par les inondations sur demande des habitants. Une des causes de cette catastrophe, c'est l'arrêt des travaux de construction d'un caniveau censé conduire l'eau jusqu'à la rivière Ndjeli. Mathieu Kachinadi, un des sinistrés, fait appel au gouvernement.
À mon niveau, je ne peux prévoir, je n'ai pas de moyens. C'est le gouvernement qui peut prévoir. Les caniveaux est plein. On ne vient même pas nous dire non, nous allons peut-être déboucher ou continuer les caniveaux jusqu'à la rivière. Non, on est là. C'est comme si nous n'avons pas le temps, nous sommes abandonnés à notre propre sort.
Pour Mami Tiyoyi, des constructions anarchiques qui bloquent le passage des eaux sont aussi une autre cause.
La 5e rue est déjà inondée en ce moment alors qu'il n'y a pas encore de pluie. L'endroit que l'État a laissé vide est occupé par de constructions construction anarchique. Du coup, l'eau ne sait plus passer. En cas de pluie, vous allez compter des morts à la 5e et à la 6e rue.
6e rue, 5e rue.
Les habitants de ce quartier ont par ailleurs affirmé n'avoir pas été sélectionnés parmi les sinistrés installés au stade Tata Raphaël.
Nord Kivu, avant d'aller plus loin, ils sont partout dans les rues de Goma. Certains portent des bassins sur la tête, des paniers remplis de fruits, tomates, poissons frais et d'autres des cartons de biscuits ou des vêtements. Ce sont les vendeurs ambulants ou comme on les appelle ici, les vendeurs à la sauvette. Pour beaucoup, c'est le seul moyen de faire vivre leur famille dans un contexte économique difficile.
Actualité internationale.
L'une des bêtes noires de Donald Trump, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a été inculpé jeudi 25 septembre notamment pour entrave à la justice. Une décision immédiatement saluée par le président américain dont les pressions visant ses adversaires politiques commencent à porter leurs fruits.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL. Valérie Madianga s'exprime sur le rapport que vient de publier sa structure, révélant que plus de 100 millions de dollars américains destinés à financer les indemnisations des victimes de la guerre de Kisangani encaissées de janvier 2022 à décembre 2024 ont pris d'autres destinations. Il s'entretient avec Grace Hamzati Masanzi.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est la méthodologie utilisée pour parvenir à produire ces rapports qui dénoncent ce que vous appelez crimes financiers au sein du FRIVAO?
Notre méthodologie, elle est connue, hein, c'est celle que nous utilisons de temps en temps. Premièrement, nous faisons la collecte des données et là, nous avons eu accès aux relevés bancaires, notamment de tous les mouvements de fonds effectués par FRIVAO. Et aussi, nous avons eu accès à des virements bancaires à travers d'autres comptes bancaires. Donc, c'est ce qui nous a permis de comprendre davantage ce qui se passe. À la fin de toute forme de collecte de données, nous avons organisé des entretiens avec au moins 50 victimes au niveau de Kisangani et aussi dans les territoires de Yauma et Banalia. Ça nous a permis de comprendre si ces derniers ont eu accès à leur paiement. Donc, ça. Après tous ces mouvements, nous avons organisé des analyses de données. Au terme de nos analyses, nous avons écrit officiellement à FRIVAO, notamment au coordonnateur et aussi au président du conseil d'administration. Et notre courrier a été adressé au ministre de la Justice, qui est le secteur de tutelle, avec copie pour information à madame la première ministre, pour obtenir quelques informations clés et confronter avec ce que nous avions.
Qu'est-ce que vous avez constaté en ce qui concerne les fonds destinés à l'indemnisation des victimes de Kisangani?
De manière globale, premièrement, il faut savoir que l'utilisation de ces fonds ne cadre pas avec l'objectif. Donc, les fonds sont utilisés à autre chose. Nous avons relevé qu'il y a des fonds qui ont transité d'autres comptes bancaires. Imaginez qu'autour de 4 millions de dollars américains ont servi à financer des cambistes. Ça veut dire qu'un bureau d'échange, ça c'est vraiment anormal. Deuxièmement, nous avons noté aussi qu'il y avait plusieurs comptes bancaires d'affectation. Ça veut dire que l'argent quitte les comptes principaux de FRIVAO, ça va vers des comptes où on a fait des dépôts à terme qui génèrent des bénéfices et ces bénéfices-là ont permis de rémunérer notamment les membres de FRIVAO, mais aussi payer certains experts au niveau du ministère de la Justice. Il y a des fonds qui ont aussi servi à acheter des véhicules pour le secrétariat général au ministère de la Justice.
Selon votre enquête ou selon vos analyses, qui serait responsable de ce que vous appelez gestion opaque ou détournement des fonds?
Le décret portant organisation et fonctionnement des FRIVAO dit que l'ordonnateur principal, c'est le coordonnateur. Mais dans ce sens ici, nous avons constaté que c'est le ministre de la Justice qui ordonne tous les mouvements de décaissement. Tout ça, ça pose énormément de problèmes en termes de tutelle de gestion. Le second problème est que il y a eu une multiplicité de comptes bancaires. Tout ça, ça ne permet pas à ce que nous puissions comprendre. Et tous les courriers que nous avons analysés, c'est le ministre qui ordonne. Donc, c'est pratiquement un détournement avéré parce que les objectifs de ces fonds-là n'ont pas été atteints dès lors qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui ont bénéficié de ces fonds. Imaginez que sur les 105 millions de dollars affectés à l'indemnisation, on a débloqué tout simplement 1% de ces fonds-là et le reste, il faut aujourd'hui que la justice nous dise à quoi aurait servi le reste des fonds pour permettre à ce que les populations qui sont à Kisangani en attente de ces fonds puissent en bénéficier. Nous avons fait des simulations. On paye pratiquement à une victime quelque chose de 2000 dollars américains. Mais si on fait des ventilations par rapport au nombre de victimes déclarées, je pense qu'une victime peut bénéficier autour de 30 000 dollars. Il y a plusieurs acteurs là-dedans qui ne permettent pas à ce que nous puissions faire la traçabilité.
Et quelles sont vos recommandations?
Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que nos frères qui sont à Kisangani, à Banalia, partout dans la province de la Tchopo, il faudrait qu'il y ait une justice pour que ces gens puissent obtenir leurs fonds. Les fonds doivent exister et doivent être récupérés au cas où un détournement devrait être établi à la fin. Nous pensons que seule la justice peut nous aider à rétablir la vérité dans cette affaire ici. Deuxième élément, nous voudrons que comme recommandation, aujourd'hui, il faut une remise en cause des FIVAO. Nous pensons que Madame la Première Ministre devrait prendre une décision qui devrait nous permettre de dissoudre FIVAO. On doit confier la mission d'indemnisation des victimes à d'autres services étatiques qui existent au sein du ministère de la Justice, qui disposent des moyens.
Valérie Madianga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.